Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire les textes de la prédication, qui seront au nombre de 5. Donc, tout d'abord, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, les versets 28 et 29. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ensuite, nous basculons dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, là aussi dans le chapitre 12, des versets 29 jusqu'au premier du chapitre 13. Donc Deutéronome, verset 29. Alors, Deutéronome, chapitre 12, verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé devant toi les nations que tu vas déposséder, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations rendaient-elles un culte à leur Dieu ? Moi aussi, je veux faire de même. » Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles faisaient pour leur Dieu toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans Actes, au chapitre 2, le verset 42, acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ensuite, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 19. Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Et enfin, le dernier texte, dans la première épître de Timothée, au chapitre 4, le verset 13. 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.
Nous allons commencer par lire un article de la Confession de foi de 1689 sur le culte religieux. Voici ce qu'il dit. La lumière de la nature nous montre qu'il est un Dieu qui a seigneurie et souveraineté sur tout, qui est juste, bon, fait du bien à tous et qui par conséquent doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et servi par les hommes de tout leur cœur, de toutes leurs âmes et de toutes leurs forces. Quant à la manière de lui rendre un culte, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné et précisé par sa volonté, révélé de sorte qu'aucun culte ne peut lui être rendu selon l'imagination et les méthodes des hommes, ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque autre manière non prescrite dans les saintes Écritures. Et sans le Saint-Esprit, en fait, nous agissons selon notre imagination et nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que nous comptons sur l'œuvre du Saint-Esprit encore ce matin pour comprendre sa parole. On a aussi parfois besoin d'avoir le culte dans sa langue. Et actuellement, un petit changement pour nos chers amis, frères et sœurs qui viennent d'Ukraine, qui parlent russe. Il y a donc un petit canal, vous avez sur le document, un QR code, vous avez un petit canal où vous pouvez avoir la prédication en russe, en complet. Et vous pouvez suivre maintenant tout ce que je dis. Enfin, ce ne sera pas exactement la même chose, mais très proche de ce qui est dit ici. Donc la plupart ont déjà reçu l'information, mais si certains ne l'avaient pas reçue, comme ça, vous l'avez reçue. Nous continuons donc aujourd'hui notre série sur l'identité théologique de l'Église locale, hein, une série intitulée « En Christ et humblement réformé baptiste ». À propos des petits papiers, pour les enfants de l'école du dimanche, je vous encourage à le prendre et à le remplir aussi. Ça peut vous aider à être attentif et à retenir quelque chose. Donc nous continuons cette série en Christ et humblement réformé baptiste, et après avoir parlé de l'importance de la parole de Dieu complète et suffisante qui est notre autorité, nous avons parlé du salut souverain en Dieu, en Jésus-Christ, appliqué par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'adoration, qui a des impacts, en fait, sur la manière de vivre nos cultes. Rappelons-nous que notre identité est en Christ et non pas dans une ligne théologique. La ligne théologique va plutôt indiquer la manière de vivre à la suite de Christ selon une compréhension de la parole de Dieu. Et même à l'intérieur, par exemple, des réformés baptistes, eh bien, s'il y a une unité, il n'y a pas uniformité. Voilà. Donc la particularité que nous allons voir aujourd'hui avec la centralité de Dieu dans le culte. Dieu est le centre du culte. Nous allons parler aussi du principe régulateur qui nous différencie des milieux évangéliques, qui, tout en cherchant à parler à Dieu et à mettre l'accent sur Jésus-Christ, mettent aussi souvent l'homme au centre du culte. Et ils ne vivent pas le principe régulateur, mais plutôt le principe normatif, suite à la suite de l'Église catholique romaine et luthérienne. Nous y reviendrons. Veillons donc à nous rappeler aussi qu'il est possible de vivre sa foi différemment, et tant qu'elle est fondée sur l'œuvre de Christ, homme et Dieu, tout en étant sauvé, eh bien, ce sont des chrétiens. Mais il y a des conséquences sur la manière de vivre sa foi dans le pèlerinage terrestre que Dieu nous donne de vivre. Et ce matin, le menu est celui-ci, c'est nous verrons premièrement Jésus et l'adoration, c'est lui notre modèle, nous vivons en Christ. Deuxièmement, la centralité du Dieu trinitaire dans l'adoration. Et troisièmement, le principe régulateur dans le culte d'adoration. Donc Jésus dans l'adoration. Alors Jésus, dès le début de son ministère, fait de l'ordre. En fait, Jésus prend l'adoration de Dieu très au sérieux. Il prend l'adoration de Dieu très au sérieux et les évangiles le soulignent parce qu'il nous rapporte deux nettoyages du temple, en fait. Deux nettoyages du temple, le lieu d'adoration que Dieu avait mis en place dans l'Ancien Testament, hein, dans Jean 2 et dans Marc 11, début et fin. Hein. Donc au début du ministère, Jésus a fortement réagi en voyant le désordre et tout ce qui a été ajouté et mis en place autour de l'adoration de Dieu. Voici ce qui est dit dans Jean 2, les versets 13 à 17. Donc Jean 2, vous pouvez vérifier, hein, toujours dans vos Bibles, ce que je raconte, c'est important. Jean 2, 13 à 17. « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il les dispersa la monnaie de changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit « Le zèle de ta maison me dévore. » Et trois ans plus tard, une semaine avant la dernière Pâque, que Jésus va vivre avec ses disciples, voici ce qui se passe au temple. Alors là, on va dans Marc 11, si vous voulez suivre, c'est avant, j'allais après. Marc 11, les versets 15 à 18. Qui nous disent, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les pharisiens, les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent des moyens de le faire périr. Ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine.
Les ajouts, les transformations au fil des siècles ont apporté un grand changement dans la manière de vivre l'adoration à Jérusalem. C'était devenu un commerce.
Mais bon, attention, si vous regardiez ce qui se passait dans le temple, eh bien, c'était un commerce pour les sacrifices. Et les sacrifices étaient faits comme Dieu l'avait demandé. Par contre, ils avaient adapté à l'interprétation du jour avec leur propre sophistication. Et c'est ce qui arrive quand on ne reste pas dans la simplicité de l'enseignement biblique. Alors, après avoir vu que Jésus fait de l'ordre dans l'adoration, car il trouve cela important, nous allons voir qu'en parlant à une femme samaritaine, il présente l'adoration de la Nouvelle Alliance. Jésus présente l'adoration dans la Nouvelle Alliance dans Jean 4. Si vous allez regarder dans Jean 4, nous allons lire ce passage. Alors, Jean 4, de 19 à 26. Donc, il est à un puits, à Sichar, avec une femme. Il parle avec elle. Et dans cette discussion, vous arrivez au milieu de la discussion, il dit, cette dame lui dit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et la femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Waouh, c'est fort, hein? Donc là, on voit cette notion, et cette femme qui discutait avec Jésus avait compris que ce que Jésus était en train de dire était en lien avec la venue du Messie. Sa question, elle n'est pas détachée de ce qui se passe. Et la venue du Messie va changer la façon d'adorer. L'adoration se fait dans la présence de Dieu. Ça, c'est de tout temps, dans la présence de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'était au temple que Dieu manifestait sa présence. Voilà pourquoi il était adoré à Jérusalem, à ce moment-là. Après la venue du Messie, c'est dans le cœur des croyants que Dieu fait sa résidence par le Saint-Esprit. C'est dans le cœur des croyants que Dieu fait sa résidence par le Saint-Esprit. Il est présent au milieu de ceux qui se rassemblent au nom de Jésus. C'est Matthieu 18, 20, quand Jésus dit cela à ses disciples. Il est présent au milieu de ceux qui se rassemblent au nom de Jésus. Donc ça, c'est des éléments importants, cette notion en esprit et en vérité. Mais est-ce que Jésus nous parle de la façon de vivre l'adoration? Est-ce que Jésus a dit à ses disciples, voilà comment vivre un culte? On n'a pas une liste, Jésus n'a pas dit, voilà comment vivre un culte. Il ne l'a pas fait. Il a vécu et adoré l'Éternel selon les normes de l'Ancien Testament qu'il a parfaitement accompli. Mais nous pouvons voir certains indices de ce que Jésus a vécu et enseigné. Et c'est ce qu'on va voir, quelques indices qui vont nous aider à voir les choses qui sont justes et bonnes. Un premier indice, c'est que Jésus a donné à ses disciples les deux ordonnances de la Nouvelle Alliance. Jésus a donné à ses disciples les deux ordonnances de la Nouvelle Alliance, le baptême et la Sainte Cène. Donc là, vous pouvez retrouver les passages bibliques si vous les voulez. Donc ça, c'est un élément important, et nous parlerons de ce sujet de manière plus étendue dans la cinquième prédication de cette série qui aura pour titre « En Christ, notre médiateur d'alliance ». Donc pour ce qui est du baptême de la Sainte Cène, on en parlera. Mais cette notion que Jésus a donné à ses disciples l'ordonnance de cette nouvelle alliance de baptême et la Sainte Cène. Ensuite, deuxièmement, Jésus a chanté les psaumes avec ses disciples. Le chant faisait partie de la vie de foi de Jésus avec ses disciples. Troisièmement, Jésus a prié avec ses disciples. On le voit à plusieurs reprises qu'il prie avec ses disciples. Il prie seul aussi.
On voit ces notions. Ensuite, Jésus aussi a enseigné en s'appuyant sur « il est écrit ». Alors, bon, on a peut-être ces notions des tentations qui reviennent hein, quand il est avec Satan, mais aussi quand il enseignait. Il est écrit, l'importance de se baser sur la parole de Dieu. Un autre indice, Jésus a donné un nouveau commandement spécifique à ses disciples. Il a donné un nouveau commandement spécifique à ses disciples. Vous le connaissez ? Il est important. C'est un commandement qu'il nous a donné à nous, en fait, qui sommes de la Nouvelle Alliance, qui nous dit « je vous donne un nouveau commandement ». Aimez-vous les uns les autres. Et voilà ce qui est nouveau. Comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà quelques indices, en fait, de ce que Jésus vivait et qui vont nous aider à comprendre ce qu'est le culte, ce qu'il désire aussi de notre part. Rappelons-nous aussi que tout le reste du Nouveau Testament, là je suis resté sur les paroles de Jésus, ce qu'il a vécu dans les évangiles, mais tout le reste du Nouveau Testament, on pourrait dire, c'est aussi les paroles de Jésus qui ont été rappelées par le Saint-Esprit et qui a passé par des hommes qui ont écrit. Donc ce n'est pas moins des paroles de Christ, le reste du Nouveau Testament, que ce qu'il dit. Juste pour un petit peu saisir la passion de Jésus pour l'adoration, on peut imaginer un garçon de 12 ans, une fille, bon, on prend un garçon de 12 ans, qui est passionné par les timbres. Le petit Tom, on s'appelle Tom, avait développé une fascination pour les timbres, les couleurs vives, les illustrations variées, les histoires qu'il racontait, ces timbres l'avaient toujours captivé. Il passait des heures à trier, à classer, à les admirer. Pour lui, chaque timbre était plus qu'un simple bout de papier. C'était un morceau d'histoire. Et Tom échangeait avec d'autres collectionneurs et avait l'œil exercé pour dénicher tous les endroits où il pouvait trouver des nouveaux timbres. Certains disaient même que Tom était dévoré par les timbres. Donc, il était un peu timbré, si vous voulez. Eh bien, Jésus n'est pas moins passionné par l'adoration de Dieu que Tom pour ses timbres. Et Jésus veut cette adoration pure. Il désire que nous vivions d'une manière qui soit celle que Dieu aime. C'est pour ça qu'il a fait de l'ordre aussi dans le temple. Et dans ce premier point qu'on vient de voir ensemble, Jésus et l'adoration, nous pouvons comprendre que, un, Jésus veut une adoration sans lien avec le commerce ou tout ce qui pourrait être en lien avec un profit personnel. Ça, c'est assez clair dans ce qu'il a fait. Donc là, on peut se poser la question, est-ce que je rends un culte sans recherche de profit personnel ? Deuxièmement, Jésus indique que l'adoration se fait dans la présence de Dieu, qui est maintenant dans le croyant, par son esprit, au milieu de ceux qui se rassemblent en son nom. Est-ce que je suis conscient de la présence de Dieu ? On avait vu déjà une fois ensemble que si ce lieu ici est saint, c'est parce que Dieu est là. Et troisièmement, Jésus n'a pas donné le déroulement d'un culte à ses disciples pendant sa présence sur terre, mais il a donné des indices qui seront développés dans le Nouveau Testament, guidés par l'Esprit de Christ. Et là, la question qu'on peut avoir, c'est est-ce que je cherche à m'inspirer de l'humanité de Christ pour vivre l'adoration ? Donc avant de prendre un peu du temps pour regarder ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur le contenu du culte d'adoration, où on parlera du principe régulateur, j'aimerais vous parler d'un principe fondamental de l'adoration. C'est notre deuxième point, la centralité du Dieu trinitaire dans l'adoration. On en a déjà parlé, mais c'est toujours bon de rappeler toutes ces choses. Qui venons-nous adorer lorsque nous venons au culte le dimanche matin ? Il me semble que la réponse théorique est claire. Pour toute personne qui a un minimum de connaissances bibliques, la réponse théorique, elle est claire. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous venons adorer. OK. Bonne réponse. Mais est-ce que chaque partie de ce que nous vivons dans le culte correspond à cette réponse théorique ? C'est vrai que si les 10 commandements ne sont pas à vivre pour être sauvés, nous ne le pourrions pas d'ailleurs. Et Christ a payé, d'ailleurs pour les personnes repentantes, d'avoir enfreint ses commandements, Christ a parfaitement accompli ses lois. Alors si les 10 commandements ne sont pas à vivre pour être sauvés, ils nous indiquent ce que Dieu aime, ce qu'il voit comme étant bon et juste. Et quel est le premier commandement ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Excellent. Je vois que ça arrivait chez les enfants, bravo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est assez clair que lorsque nous adorons, il ne faut pas d'autres intentions que de lui faire plaisir. Le « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », ça a des implications, hein. Donc en fait, les intentions quand on vient adorer, c'est de lui faire plaisir. C'est que de lui rendre un culte. De lui rendre un culte. C'est que de suivre ce que lui a envie. Si on adore Dieu, on suit ce que lui a envie. C'est que d'agir de manière à l'honorer lui seul. L'honorer lui seul. Et c'est l'intention que d'écouter ce qu'il nous dit dans sa révélation, la Bible. Donc il est assez clair que quand nous adorons, il ne faut pas d'autres intentions que celles-là. Si nous cherchons un autre plaisir que celui de Dieu, ne sommes-nous pas en train d'adorer un autre Dieu ? Si nous venons premièrement pour autre chose, je parle de premièrement parce qu'il y a des autres choses qui viennent avec, évidemment, dans ce qu'on vit dans le culte, mais si nous venons premièrement pour autre chose que lui rendre un culte, ne sommes-nous pas en train d'adorer un autre Dieu ? Ce qui signifie que si nous sommes venus à l'église le dimanche matin, que nous avons pu adorer Dieu et que nous n'avons rien pu faire d'autre et que nous n'avons rien reçu d'autre, nous sommes contents. Parce que nous sommes venus adorer Dieu. C'est notre première chose. Si nous cherchons à suivre d'autres envies que celles de Dieu, par exemple la nôtre, une autre envie, ouais, Dieu dit ça, mais moi j'aimerais plutôt vivre ça, ne sommes-nous pas en train d'adorer un autre Dieu ? Si nous honorons quelqu'un d'autre que Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, ne sommes-nous pas en train d'adorer un autre Dieu ? Si nous venons dans le but d'écouter ce qui nous fait plaisir, non pas pour écouter ce que Dieu nous dit dans la révélation, même si cela dérange et va dans une autre direction que la société, ne sommes-nous pas en train d'adorer un autre Dieu ? Alors ne me comprenez pas mal, hein ? Il est certain que nous allons nous réjouir de recevoir la grâce de Dieu, de vivre la communion fraternelle, d'être heureux et bien dans la louange que nous apportons par le chant, la prière, l'écoute de la parole, l'amour fraternel les uns envers les autres. Mais ce n'est pas notre focalisation. Ce n'est pas notre raison de venir au culte. Ce n'est pas notre premier objectif. Sinon, on doit se demander, est-ce que je n'adore pas un autre Dieu ? Nous croyons que l'adoration doit être centrée sur Dieu et non sur l'homme. Et l'adoration, c'est tout le culte, pas seulement une partie que certains appellent temps de louange. À propos de chant dans le culte, je vous encourage à écouter ou réécouter hein, les excellents enseignements d'Olivier Favre qu'il donne actuellement dans sa série à l'église, ici. Et dans la dernière, il soulignait deux erreurs à ne pas commettre et je les donne en résumé. La première, c'est penser que la louange, ce n'est que le moment de chant. C'est faux. C'est tout le culte qui est une louange à Dieu. Depuis les paroles d'introduction qui dirigent vers Dieu jusqu'aux paroles de l'accueil aux personnes présentes, en passant par les prières, les chants, les lectures bibliques, la prédication et même la communion fraternelle. Deuxièmement, penser que nous avons besoin de la louange chant pour entrer en communion avec Dieu est faux. Notre médiateur, c'est Jésus-Christ, c'est pas le chant. Ne me comprenez pas mal, je dis pas que le chant est une mauvaise chose et qu'on peut pas être dans cette communion avec Dieu. Mais nous n'avons pas besoin de louanges pour entrer dans la communion avec Dieu, nous avons besoin de Jésus-Christ. Ne nous trompons pas de Dieu. Jésus a parlé d'adoration, c'était notre premier point. Dieu doit être au centre et occuper toute notre adoration, c'est ce que nous avons vu dans le deuxième point. Et maintenant, nous allons un peu réfléchir au contenu du culte. Pourquoi les réformés baptistes n'incluent pas des shows dans leur culte et restent simples par les prières, la lecture de la Bible, les chants, la prédication, la Sainte Cène ? Pourquoi ? C'est parce que nous croyons au principe régulateur. Jésus a dit dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ça, on l'a déjà vu avant avec la Samaritaine. Adorer en esprit, c'est adorer en ayant l'esprit vivant en nous, c'est l'adorer selon sa nature et ses attributs. Adorer en esprit, c'est adorer en ayant son esprit en nous. Ce n'est pas adorer en ayant notre idée à nous. C'est adorer comme lui le veut, selon sa nature et ses attributs. Et deuxièmement, adorer en vérité, c'est l'adorer selon ce que Dieu est, qui est vérité, institué dans sa parole, qui est la vérité infaillible. Okay? Esprit et vérité, deux éléments fondamentaux ici pour cela, qui vont nous aider à comprendre pourquoi nous croyons au principe régulateur. Deuxièmement, dans Hébreux 12, 28 à 29, on l'a lu tout à l'heure, où il est dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte, écoutez bien les éléments qu'il dit ici, qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car Dieu est aussi un feu dévorant. Donc le culte rendu à Dieu selon trois critères ici, agréable à Dieu, hein, d'une façon qui plaise à Dieu, qu'il accepte, qui est conforme à ce qu'il demande et ce qu'il aime. Ça, c'est ce que signifie le terme utilisé ici dans le texte original. Et deuxièmement, avec piété. Ce terme, en fait, souligne le sentiment de profond respect pour Dieu. Ce n'est pas un respect pour la culture ambiante ou les sentiments du moment, mais pour Dieu. Et troisièmement, la crainte. Le terme original souligne le sentiment fort d'admiration mêlé de crainte. Aucune admiration de quelqu'un qui ferait un show devant nous ne doit être l'objet de nos pensées. Non, c'est l'admiration de Dieu. Donc ces trois critères, agréables à Dieu, avec piété, avec crainte, nous indiquent que nous n'avons pas à inventer quelque chose, mais à véritablement chercher à saisir ce que Dieu aime en nous basant sur sa parole. Donc ces trois critères, agréables à Dieu, avec piété, avec crainte, nous indique que nous n'avons pas à inventer quelque chose, mais à véritablement chercher à savoir ce que Dieu aime en nous basant sur sa parole. Nous sommes appelés à ne pas nous conformer au monde, mais à discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est Romains 12, versets 1 et 2, hein, que je vais vous relire, pour vous rappeler, donc qui souligne encore plus fortement que nous sommes engagés de tout notre être à l'adoration de Dieu. Et nous devons nous éloigner des idées du monde et discerner la volonté de Dieu, cette volonté qui est révélée dans sa parole et qui ne change pas. Donc c'est normal que des cultes qu'on a eus au 1er siècle, au 2e siècle, au 4e, au 10e, au 20e, au 30e siècle, enfin non, on n'y est pas encore, se ressemblent, qu'il y ait des similitudes, parce que la parole de Dieu ne change pas, Dieu ne change pas. Il est dit dans Romains 12, ici, 1 et 2, hein, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, nous allons voir maintenant qu'est-ce que signifie ce principe régulateur ou principe normatif, qu'on comprenne un petit peu. C'est ici que nous avons deux manières d'aborder le sujet de manière différente. Or, les catholiques romains, les anglicans et les luthériens vivent le principe normatif, qui veut dire tout ce que Dieu n'interdit pas peut être vécu dans le culte, si vous voulez. Hein. Ou bien tout ce que Dieu n'a pas interdit pour être inclus dans le culte, on peut l'inclure dans le culte rendu à Dieu. C'est pour ça qu'il y a, dans les églises catholiques ou anglicanes, tant de gestes, de vêtements, de parfums et autres rituels dans ces cultes. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas interdit, on peut le faire. Les évangéliques vivent le culte sur le même principe. Mais nous pourrions peut-être l'appeler le principe innovateur. On peut tout essayer tant que Dieu ne l'interdit pas. Cela signifie que pendant le culte, il peut y avoir des sketchs humoristiques pour signifier la joie en Dieu, de lancer de fleurs pour célébrer sa création, quelques danses folkloriques pour la convivialité entre croyants, et accompagné d'un apéro et une douce musique, puisque la Bible n'interdit pas toutes ces choses. Les églises réformées historiques, et c'est là que le nom réformé vient à quelque chose à faire dans ce que l'on vit ici, a aussi son sens ici, c'est que nous ne vivons pas le principe normatif, mais le principe régulateur, qui dit que nous adorons Dieu uniquement de la manière dont Dieu l'a explicitement prescrit dans sa parole. Ou pour le dire autrement, tout ce qui n'est pas formellement enseigné et commandé par la Bible dans sa parole concernant l'adoration n'a aucune place dans le culte. Ou pour le dire encore plus simplement, pour dire les deux choses, donc le principe normatif dit « nous faisons tout ce que la Bible n'interdit pas », ça c'est le principe normatif, et le principe régulateur dit « nous faisons uniquement ce que Dieu a enseigné dans sa parole ». Voilà la différence.
Et voilà pourquoi, quand vous serez dans différents lieux de culte, il y a des différences. Parce qu'on suit soit le principe normatif, on fait tout ce que Dieu n'interdit pas, ou bien le principe régulateur, nous faisons uniquement ce que Dieu a enseigné dans sa parole. Donc, le principe régulateur, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Quel est le contenu du culte, alors, selon la parole de Dieu? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et nous allons voir ceci en ayant pour, en tête un petit peu le principe que l'on voit dans Deutéronome. Alors, bien sûr, ça, c'est dans l'Ancienne Alliance, mais Dieu donne des principes qui restent éternellement. Et le principe qui est donné dans Deutéronome 12, 29 à 13, 1, qu'on a lu tout à l'heure, que je vais relire avec vous, est vraiment important. Et on va comprendre pourquoi. Donc, Deutéronome 12, 29 à 31. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé devant toi toutes les nations que tu vas déposséder, lorsque tu auras dépossédé et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auraient été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations rendaient-elles un culte à leur Dieu ? Moi aussi je veux faire de même. » Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles faisaient pour leur Dieu toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne, tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. »
Je l'ai dit, nous ne vivons pas sous l'Ancienne Alliance, donc on ne va pas suivre tout ce que le Lévitique indique pour vivre le culte, qui d'ailleurs préfigurait l'œuvre de Christ. Mais le principe de ne pas imiter la manière d'adorer les idoles, pour l'appliquer dans la manière d'adorer le seul vrai Dieu, reste dans le Nouveau Testament. Ça reste. On ne va pas chercher comment on adore des idoles pour dire « Ok, oh ça c'est sympa, hop, je vais adorer Dieu de cette manière-là. » C'est une horreur pour l'Éternel. Et pour ne pas s'éloigner de ce que Dieu veut, il vaut mieux se tenir à ce qu'il a enseigné. Ça, c'est déjà un élément. Pourquoi on le vit comme ça? Pour ne pas s'éloigner de ce que Dieu veut, il vaut mieux s'en tenir à ce qu'il a enseigné. Et en voici le résumé par le point 5 du chapitre 22 de la Confession de foi de 1689, avec les textes bibliques que nous avons entendus tout à l'heure par rapport au culte, dans Actes 2, 41, Éphésiens 5, à Timothée 4, et les indices que Jésus aussi nous a déjà donnés de ce qu'il vivait. On voit que ça correspond à ce qui est dans cette Confession de foi, qui est aussi la nôtre. Qui dit ceci. La prière avec action de grâce, étant une part du culte naturel, est requise par Dieu de tous les hommes. Cependant, pour être acceptée, elle doit être faite au nom du Fils, avec l'aide du Saint-Esprit, selon sa volonté, avec intelligence, respect, humilité, ferveur, foi, amour, persévérance, et dans une langue connue en présence d'autres. Point 5. Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication, l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels adressés au Seigneur avec le cœur rempli de grâce ainsi que l'administration du baptême et de la Sainte Cène. Le tout doit être pratiqué en obéissant à Dieu avec intelligence, foi, respect et crainte de celui-ci. De plus, de solennelle humiliation accompagnés de jeûnes et d'actions de grâce en des occasions particulières, doivent être pratiqués de manière sainte et religieuse. » Fin de citation de la Confession de foi. En fait, le culte est simple et il contient uniquement ces éléments. La prière, c'est pas trop compliqué ça, mais c'est la prière qui est faite au Père, au nom du Fils, à l'aide du Saint-Esprit, hein, et compréhensible pour les autres. Ça, c'est aussi pour ça que quand quelqu'un prie en ukrainien, on souhaite et on demande qu'il y ait une traduction, parce que tout le monde doit comprendre quand on est en communauté. Ça, on peut voir des textes dans Éphésiens qui nous le parlent. Ensuite, deuxièmement, la lecture des Écritures. Troisièmement, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu. Quatrièmement, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes, des chants spirituels adressés au Seigneur avec le cœur rempli de grâce. Voilà pourquoi aussi on cherche à adresser nos hymnes au Seigneur. Et pas à quelqu'un d'autre. Et cinquièmement, l'administration du baptême et de la scène. Voilà, c'est les éléments constitutifs du culte. C'est pour ça que nous vivons cela ici, parce que nous désirons vivre ce que Dieu enseigne dans sa parole. Afin de rester fidèles à la parole de Dieu, cherchant à vivre notre identité en Christ, qui fait de l'ordre, qui ne veut pas que les choses soient ajoutées à ce que Dieu demande, eh bien, nous cherchons à vivre ce principe régulateur. Voici la raison pour laquelle nous le vivons dans les églises réformées baptistes. C'est ce qui anime en fait notre motivation à vivre ces cultes tels que nous les vivons au sein. Donc voilà pourquoi on n'a pas un groupe de musique qui est devant nous, qui malheureusement souvent prend toute la gloire et qui même parfois font que les gens ne chantent plus mais n'écoutent simplement de deux oreilles et peut-être parfois plus que d'une. Non, nous voulons que la parole de Dieu et Dieu soit la vedette du culte, qui soit centré sur lui. Le moins possible de technologie aussi qui captive et détourne l'attention de celui que nous sommes venus adorer. C'est Dieu que nous voulons adorer. Un grand encouragement à se concentrer aussi, à réfléchir, à construire sa pensée sur la parole de Dieu qui nourrit nos prières, nos chants, remplissent nos prédications. Ça, c'est un élément important. Se concentrer, réfléchir, construire sa pensée sur la parole de Dieu qui nourrit nos prières, nos chants et remplissent nos prédications. Ceux qui pratiquent le principe normatif ou innovateur ne sont pas de mauvais chrétiens. Ça, faut bien me comprendre. Ne sont pas de mauvais chrétiens. Mais nous pensons qu'ils ont beaucoup plus de risques dans 5 domaines que je vais vous donner maintenant. Ils ont beaucoup plus de risques dans 5 de ces domaines. Le premier, c'est le risque de mettre l'homme au centre, puisque c'est lui qui cherche le moyen d'adorer Dieu. Ça, c'est un premier risque. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait, je dis que c'est un risque quand on fait le principe normatif. C'est de mettre l'homme au centre, puisque c'est lui qui cherche comment adorer, le moyen d'adorer Dieu. Deuxièmement, le risque d'introduire des éléments qui détournent l'attention envers Dieu pour rejoindre les désirs et préférences personnelles imprégnées de la culture du monde. Ça, c'est le deuxième risque, d'introduire des éléments qui détournent l'attention de Dieu pour rejoindre les désirs et préférences personnelles imprégnées par la culture du monde. Troisièmement, le risque de développer des pensées non bibliques, comme celle de devoir avoir un temps de chant louange pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. J'en ai déjà parlé. D'ailleurs, pour certains, ce temps appelé louange, s'il n'existe pas, ils ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Enfin, c'est ce qu'ils disent. C'est Jésus-Christ, notre médiateur, les amis. Ce n'est pas la louange, bien que la louange est un temps important, la louange chant est un temps important. Quatrièmement, le risque de manipuler les auditeurs par les rythmes, les mélodies, des images ou vidéos captant l'attention de manière frénétique, faisant croire à des expériences spirituelles qui en fait sont des expériences purement émotionnelles et ne permettant pas une réflexion posée et calme. Quand on est matraqué par de la musique, par des images, etc., qui captent l'attention, eh bien, il y a des expériences émotionnelles qui se passent, ça c'est évident. Et qui parfois sont, c'est le risque, je parle de risque là, hein, qui risquent d'être prises pour des expériences spirituelles qui n'en sont pas, parce qu'il n'y a pas de réflexion posée et calme. Ah, j'avais dit 5, mais j'en ai que 4. Je m'arrête là, de ces risques, mais c'est des risques importants quand même. Et en suivant le principe régulateur, nous désirons au contraire, premièrement, mettre Dieu au centre, en vivant ce qu'il nous demande et enseigne, rien d'autre qui viendrait de nous. Nous ne voulons pas que des choses de nous viennent au culte. Et il peut arriver que dans les cultes, il y a des choses de nous, que Dieu nous garde. Et si ça arrive, eh ben, que Dieu nous donne la grâce de le voir, de le retirer, de nous en repentir. Voilà, nous on se sent pas parfait. On est en chemin aussi. Deuxième élément, nous désirons éviter tout élément qui détourne l'attention que tout ce qui est vécu soutienne ce que Dieu nous enseigne. Par exemple, s'il y a des instruments ou même des chantres qui chantent pour aider à chanter l'assemblée, c'est pour soutenir l'assemblée dans le chant. Ce n'est pas pour couvrir l'assemblée. Et la différence, soutenir, pas couvrir. Ça, c'est la grande différence. C'est pour ça qu'après, ce n'est pas le type d'instrument, ce n'est pas la question. Est-ce que ça soutient ou est-ce que ça couvre? Ça, c'est la question. Troisièmement, permet à chacun de réfléchir face à la parole que nous désirons avec l'aide du Saint-Esprit. On aimerait que chacun réfléchisse à ce qu'il entend, qu'il ait du temps, s'il y a des temps de silence ou si parfois des temps de réflexion. On a des développements plus ou moins longs, ce n'est pas juste pendant 2 minutes qu'on est en train de réfléchir, c'est plus long, parce que nous désirons en fait que chacun puisse réfléchir, guidé par le Saint-Esprit, pour même déjà personnellement trouver des applications personnelles dans sa vie avec ce qu'on entend. Et pas devoir simplement recevoir, comme le monde le veut, tout cuit. Hein, je fais un petit chat GPT. Qu'est-ce que je dois vivre aujourd'hui selon le texte de ici? Fais ça. Je fais, je suis content. Non! On a besoin de réfléchir, de construire sa pensée. Et ça, c'est un élément qui, me semble, avec ce principe régulateur, on cherche à tendre dans cette direction-là. Le principe régulateur, ce n'est pas faire ce qui n'est pas interdit, mais faire ce que Dieu demande. C'est ça, en fait, le fond. Et il me semble quand même que c'est assez proche de la manière d'agir de Jésus-Christ, dont nous désirons vivre l'identité. Alors, ce matin, nous avons réfléchi au sujet en Christ, sujet de notre adoration. Jésus est Dieu, il est celui que nous voulons adorer, placé au centre de notre attention. Si Christ n'est pas présent dans un culte, il y a un problème, vraiment. Et s'il nous a créés, c'est pour l'adorer. S'il nous a sauvés de la mort éternelle que nous méritons par nos péchés, c'est pour l'adorer. Et dans le cas de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, nous souhaitons que chacun se réjouisse de vivre le principe régulateur. Quand on comprend ce principe, qu'on s'en réjouisse, même si c'est à contre-courant de notre société et même du milieu évangélique. Car nous savons pourquoi nous le vivons, simplement pour éviter de nous éloigner de la volonté de Dieu révélée dans sa parole et rester dans la simplicité d'un culte centré sur Dieu, basé sur sa parole. Or, la question que j'aimerais nous poser, vivons-nous cela dans nos cultes personnels ? Vivons-nous cela dans nos cultes de famille ? Nous allons prier, tout simplement. Éternel, j'aimerais te dire merci parce que ta parole est suffisante. Nous l'avions vu, il y a déjà 2 prédications, et j'aimerais te remercier pour cela. Nous le voyons appliqué aussi dans la vie du culte, et nous te remercions parce que tu ne nous as pas laissé errer, et tu nous as donné des éléments clés et clairs. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous égarer. Seigneur, nous nous sentons bien faibles, nous ne nous sentons pas au-dessus de quelqu'un qui a une autre pensée. Nous pensons même que nous avons besoin d'être proches de ta parole parce que nous sommes faibles dans notre chair et très vite capables d'ajouter des choses ou de sophistiquer des choses. Aide-nous, Seigneur, à vivre d'une manière simple ta parole. Permets, Seigneur, que si Jésus venait faire un tour dans son temple ici ce matin, il n'ait pas à sortir le fouet. Mais qu'il puisse, Seigneur, se réjouir que nous sommes une maison de prière. C'est notre désir, Seigneur. C'est que tu sois le centre. Et Seigneur, ce désir, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour toutes les églises autour de nous aussi. Que Christ soit le centre. Et que tu puisses, Seigneur, te manifester, manifester ta gloire. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous guider dans cette adoration qui est tellement magnifique. J'aimerais te prier que chacun ici présent puisse saisir et comprendre l'intimité avec toi, mais sans avoir besoin de choses factices qui l'y amènent. Mais qu'il puisse, Seigneur, simplement entrer dans cette relation intime avec toi par Jésus-Christ. Et que cette relation intime soit si forte et si désirable que le culte devient une joie, que le culte devient une attente. Dès le lundi, on a envie d'être là parce qu'on veut te louer, t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Parce que c'est bon. Et en plus, nous en bénéficions, Seigneur. C'est une grâce de ta part. Tu n'as même pas besoin de nous faire bénéficier de l'adoration. Tu es digne de la recevoir, tout simplement. Et j'aimerais te dire merci que dans ta grande bonté et ta richesse, tu nous permets même d'en bénéficier grandement. Sois loué et béni. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.